les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, très heureuse de vous retrouver ce soir. La vie étudiantine est pleine de promesses, mais pour tous elle reste précaire. Et pour les étrangers qui viennent en France, c'est une chance inespérée avec de risques démultipliés. Et donc une chance à double tranchant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie d'une jeune étudiante étrangère qui fait actuellement face aux imprévus de la vie, décès inattendu de sa maman qui finançait ses études, grossesse d'un Français mais sans lendemain, elle est elle-même sans logement. Autant de choses à dire ce soir, d'où le thème de l'émission « Études et immigration en France, deux points, une chance et beaucoup de risques ». Notre invitée s'appelle Amouin Yao, elle a une vingtaine d'années et elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Carole, merci d'avoir accepté de parler avec nous à cœur ouvert.
Bonsoir madame, je vous en prie et merci aussi pour l'invitation.
Nous sommes avec vous présentement au foyer Saint-Benoît à Joseph-Labre, une maison d'accueil de femmes avec enfants en précarité, sans papier et en voie de régularisation. Que faites-vous là alors que vous êtes régularisée?
Ma destination ici a été provoquée par ma grossesse, d'où mes tuteurs m'ont mise à la rue et j'avais nulle part où aller. Et j'ai des amis qui ont contacté le père Philippe, le dirigeant du foyer, et qui m'a recueillie dans son foyer aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis là avec vous.
Carole, parlez-nous un peu de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé de venir ici en France?
D'abord, ma venue ici en France a été un projet qui a été construit et mûri par ma mère et moi. Et aussi, vu l'enseignement supérieur en Afrique, c'est un peu compliqué. Je prends un exemple, normalement l'année scolaire est sur 9 mois. Tu fais un mois de cours, 8 mois de grève, j'ai vu que ce n'était pas avantageux pour moi. Donc, on a construit ce projet. Vu aussi les formations dispensées à l'international, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce projet-là. Et j'ai postulé à Campus France et plus précisément à l'ESC Amiens. Et ma candidature a été acceptée. Et je suis arrivée en France. Et d'abord, disons pourquoi la France? Parce que la France, d'abord, elle offre des qualités de formation. En matière de formation, il y a une diversité de formations où l'étudiant a le choix de valider une formation que nous n'avons pas en Afrique. Et aussi, les enseignants sont aux petits soins des étudiants. Même s'il y a une difficulté d'adaptation, on va au fur et à mesure et chaque étudiant essaie de s'adapter à ces enseignements-là.
Et vous suivez quelle filière comme ça ?
En master 1, j'ai fait management de gestion opérationnelle des entreprises.
Et une fois arrivée en France, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord,
quand vous êtes arrivée à l'aéroport,
d'abord,
vous imaginez quelle France, au fait? Quand vous étiez en Côte d'Ivoire et quand vous êtes venue, y a-t-il eu un choc?
Disons, pas totalement un choc, puisque ma mère, de temps en temps, venait un peu en France et elle m'expliquait un peu ce qu'il y a en France. On n'a pas la même diversité culturelle. Et moi aussi, j'essayais de me renseigner un peu sur tout ce qui se passe. Mais disons que tout le monde, lorsqu'il met son pied sur le terrain, territoire étranger, il y a un petit choc émotionnel. Donc, tout n'était pas pareil à ce que je voyais à la télévision. Il y avait plusieurs types de personnes, plusieurs types de couleurs de peau. J'étais un peu dépaysée, pas totalement. Mais avec le temps, j'ai essayé de m'adapter.
Et quand vous êtes arrivée sur place, vous étiez hébergée où le premier jour?
Le premier jour, c'est quelqu'un qui allait me chercher à l'aéroport. Et après, je suis partie dans ma ville estudiantine à Amiens. dans le nord de la France et j'étais hébergée chez un tuteur. Et un mois après, j'ai pris un logement, un studio en colocation où j'étais hébergée, où je payais le loyer chaque fin du mois.
Et c'est votre maman qui finançait
oui,
ça depuis la Côte d'Ivoire.
Ah oui, tout à fait.
Ah, donc il y a eu quand même un changement de vie,
ouais.
On peut dire en quelque sorte.
En quelque sorte.
Et votre adaptation alors ?
Mon adaptation, parce que chaque dans une colocation, chacun vient avec son éducation. Et tout le monde n'a pas la même éducation. Tu ne peux pas faire l'éducation de l'autre, l'autre aussi ne peut pas faire mon éducation. Donc chacun de nous essayait de s'adapter aux besoins de l'autre et aussi à la manière de vivre de chacun de nous.
Et vous êtes là en France depuis combien de temps ?
Ça va faire bientôt 2 ans. Je suis arrivée le 27 septembre 2020.
Et comment vous vous êtes pris pour les démarches administratives ? Vous avez eu un visa long séjour depuis la Côte d'Ivoire ?
Oui, j'ai fait une demande de visa que j'ai eue. Et étant en France ici pour la validation, je me suis rapprochée des plus anciens qui m'ont donné un coup de main pour pouvoir valider mes dossiers administratifs et tout. Et lorsque je ne comprends pas, j'essaie de me rapprocher de ceux qui étaient là avant moi pour pouvoir m'aider à remplir les dossiers.
Et comment ça se passe pour vous au niveau de l'école ?
Au niveau de l'école, actuellement, j'ai pris une année de césure puisque je n'ai pas fini de payer la scolarité.
Et pourquoi ?
À cause des problèmes qu'on a mentionnés au début de l'émission. Et donc, j'avais des opportunités de stage. À l'école, la condition pour valider le Master 1, il faut d'abord finir de payer la scolarité, qui est de 7 700 €, et après trouver un stage pour valider le Master 1. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'avais pas de possibilité de faire des stages si j'avais plusieurs opportunités, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire de stage à cause de la scolarité non réglée. Donc du coup, j'ai demandé une année de césure pour pouvoir chercher des stages et puis après me relancer pour faire un Master 2.
Et votre maman, comme je l'ai dit au début de l'émission, est décédée, et c'était un décès brusque ?
Bon, puisque moi, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas vraiment. On m'a dit qu'elle n'était pas totalement souffrante, mais je n'ai pas eu de détails puisque c'était un choc. C'était au début de l'année 2021, en plein partiel. Donc du coup, ça m'a traumatisée un peu. Donc du coup, je n'ai pas trop demandé à rentrer en profondeur
et tout. Et vous n'avez pas trouvé quelqu'un au niveau de la famille en Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer à financer vos études ?
Bon, vous savez qu'en Afrique, pour que quelqu'un prenne l'engagement de financer tes études, ça, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.
Nous allons marquer une pause musicale. Little girl, everyone cried. Alors, Carole, aujourd'hui, vous êtes enceinte. Non seulement vous faites face jusqu'aujourd'hui à ce choc émotionnel, le fait de perdre un être très cher dans votre vie. Vous êtes enceinte, donc vous allez accoucher bientôt. Et le bébé, ce sera un garçon ou une fille?
Ah, le bébé, c'est un garçon.
Et comment vous allez, vous pensez, accueillir ces bébés?
En fait, je pense l'accueillir comme tout le monde. Hein. La priorité, c'est de donner une place à mon enfant aujourd'hui. C'est ça d'abord ma priorité. Et aussi me battre pour pouvoir subvenir à ses besoins afin qu'il ne manque de rien.
Vous attendez un enfant d'un Français. Je l'ai dit, vous n'êtes pas en très bon terme. Et qu'est-ce que ça vous fait psychologiquement?
Psychologiquement, dans les débuts, c'était un peu, ça me faisait un peu, ça touchait mon système. Mais après, je me suis dit que tout ce que Dieu ferait bon, et l'avenir nous dira si il pourra changer d'avis ou pas. De toutes les manières, c'est mon enfant, et moi aujourd'hui, je suis emmenée à lui donner l'éducation qu'il mérite et aussi tout ce dont il a besoin. Et si j'ai la possibilité de jouer en même temps les deux rôles du père et de la mère, pourquoi pas ne pas le faire, même si l'enfant a besoin de ses deux parents. Mais je sais que je serai en mesure aujourd'hui de m'en occuper et prendre soin de mon enfant.
Et c'est votre premier enfant que vous attendez?
Oui.
Mais vous savez que le rythme de l'Europe et de l'Afrique, ça n'a rien à voir.
Tout à fait.
En Europe, on court par-ci, par-là, on se balade avec son enfant, même si on a de rendez-vous, etc. Vous pensez que vous êtes apte à pouvoir affronter cette autre vie qui vous attend d'ici quelques mois?
Dans la vie, tout est une question de choix. Et on dit toujours que vouloir, c'est pouvoir. Donc, je dis pas que je pourrais pas, je peux pas dire aussi que je peux, mais je vais me donner les moyens de le faire.
Et en Côte d'Ivoire, vous travaillez un tout petit peu?
Oui, non. En Côte d'Ivoire, j'étais cadre à la poste.
Ok. Et ça ne vous a pas suffi de rester travailler, d'étudier en Côte d'Ivoire et en même temps de rester travailler à la poste? Est-ce que vous occupiez quand même un bon poste que vous ne vous occuperez peut-être pas ici en France?
Vous savez, aujourd'hui, tout le monde espère avoir mieux. Donc, j'avais voulu aller mettre, comme on le dit toujours en Afrique, dans le jargon africain, mettre un peu de neige sur mon CV. Et pourquoi pas retourner en Côte d'Ivoire, mais l'avenir nous dira.
Donc, dans votre tête, c'était, quand je viens étudier en Europe, je termine mon parcours étudiantin et je retourne en Côte d'Ivoire travailler.
Oui.
Apporter votre expertise à la Côte d'Ivoire.
Pas apporter mon expertise d'abord à la Côte d'Ivoire. Servi d'abord le pays qui m'a accueilli,
oui,
un signe de reconnaissance, et après aller travailler moi-même à mon propre compte. Pas travailler pour quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire, travailler à mon propre compte.
Et maintenant là que la donne va changer, vous portez un enfant français, Et est-ce que vous avez pensé partir avec lui au pays alors qu'il y a d'autres réalités? Voulez-vous qu'il puisse, cet enfant puisse grandir ici en France?
Je dirais que pour le moment, je n'envisage pas retourner en Côte d'Ivoire à l'instant T. D'abord, avoir une bonne base ici et que mon enfant acquiert toute l'éducation en français. Et après, on verra si j'ai la possibilité de retourner, mais pas retourner de manière définitive. Retourner de manière temporaire, essayer de trouver une assise là-bas, gérer des entreprises et tout, et puis après revenir. Mais pas pour aller rester là-bas parce que, disons que l'Afrique, même si on dit que c'est le berceau de l'humanité, mais bon, j'ai pas d'avenir là-bas. Je préfère rester ici. J'ai pas d'avenir là-bas.
Rester ici avec beaucoup de fragilité, c'est une chance pour vous. En même temps, vous reconnaissez que il y a la situation est quand même assez précaire au début.
Tout à fait, tout à fait.
Vous avez quitté Amiens et vous êtes venu en Île-de-France. Est-ce que vous avez l'impression comme si quelque chose a changé en province, en Île-de-France?
Oui.
Comme quoi?
Parce qu'à Amiens, normalement. Disons, la pollution, l'environnement est d'Amiens et l'environnement de l'Île-de-France n'est pas pareil. D'abord, à Amiens, chacun est dans son coin, hein, tu ne vois pas assez de monde dehors. Alors qu'en Île-de-France, il y a du bruit, le monde que tu vois toujours pressé. Alors qu'à Amiens, chacun marche selon son rythme et tout. Et aussi, ce qui m'a marqué ici en Île-de-France, c'est qu'il y a plus d'opportunités que celle d'Amiens. Amiens, les opportunités d'emploi là-bas, c'est un peu délicat. C'est plus une zone estudiantine qu'une zone de recherche de travail. Là, qu'en Ile-de-France, une fois que tu es là, tu postules 2 à 3 jours, il y a un recruteur qui t'appelle. Mais en Amiens, il n'y a pas ça.
Ah, donc, vous voulez poursuivre vos études à Amiens, mais venir en Ile-de-France pour travailler?
Pas poursuivre mes études à Amiens. Amiens même, c'est une ville que je veux pas y retourner. Parce que c'est une ville qui j'ai pas de bonne expérience à Amiens. Excusez-moi de dire le terme, c'est une ville un peu de raciste, mais bon. On était allé pour atteindre des objectifs et après quitter la ville.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous parlez entre guillemets du racisme? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était au niveau de l'école ou bien au niveau de votre lieu de résidence?
Au niveau de l'école, même dans la rue, par exemple, tu prends un bus. Et chez nous, les Africains, lorsque tu vois une grande personne qui est arrêtée, par politesse, tu te lèves pour demander à la personne de s'asseoir et tout. Mais lorsque tu demandes à un Français, asseyez-vous, il va te dire non, que je ne m'assois pas à côté des Noirs. Ou bien à l'école, lorsqu'on te donne des travaux dirigés, on vous met dans des groupes d'études avec des Blancs. Ils te disent, voir l'enseignant pour dire qu'ils ne veulent pas être dans le même groupe avec des Noirs et tout. S'ils te voient assis sur un banc, et normalement, il y a de la place qui est à côté, mais lui, il va se déplacer pour aller s'asseoir sur un autre banc. Ce genre de truc crée un peu une division. Donc, du coup, nous, comme on était 6 à 7 Africains, bon, on s'est arrangé de notre côté. Dans les débuts, on a essayé de les approcher, mais ils étaient tous dans leur coin. Donc, chacun restait dans son coin. Et puis après, la fin d'année, chacun s'est cherché.
Donc, vous vous êtes pas fait des amis
bon,
côté blanc, juste côté africain?
Certains d'entre eux étaient un peu faciles d'accès, mais d'autres, par contre, ils étaient bloqués dans leur tête. Quand on te dit noir, ça veut dire la peste et tout. Lorsqu'ils sont en train de parler du noir, ça fait comme si tu as une maladie sur toi, ils te voient, ils changent de route. C'était un peu malsain, mais bon, on est parti pour quelque chose.
Et vous êtes parti pour quelque chose, donc petit à petit, les choses aussi se dessinent dans le bon sens pour vous. Vous étiez quel genre d'étudiant, ou vous êtes quel genre d'étudiante? Assidu?
Disons assidu. Parce que j'aime le travail bien fait et je suis très figée sur tout ce qu'on me donne. Tant que je finis pas, je me lève pas, quoi. Je fais toujours mes trucs avant de sortir et tout, les études d'abord.
Et tout ce qu'il y a comme tout ce que vous rencontrez actuellement comme imprévu, comment vous arrivez à le gérer?
Dans les débuts, c'était un peu compliqué. Mais avec le temps, avec les conseils des amis, des grands frères et tout. Parce que tout le monde passe par là. Même si ce n'est pas la grossesse. Tout étranger qui vient en France, même si vous avez des parents ici, tout le monde passe par des difficultés. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas passé par des difficultés pour arriver là où il veut arriver aujourd'hui. Et je dis que c'est un chemin que tout le monde passe par là. Et il n'y a jamais de douleur sans, de bonheur sans douleur. Donc, avec les conseils des amis et tout, j'ai stoppé le stress. Je m'amuse comme tout le monde. Les problèmes viennent chaque jour. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de problèmes. Les problèmes sont là et ça existe. Mais au fur et à mesure que tu rencontres d'autres personnes, chacun donne ses aventures et tout, tu dis que pour toi, devant le témoignage de celui qui est en face de toi, c'est rien. Mais on essaie de s'adapter.
Nous allons marquer une autre pause musicale.
Thank you.
Carole, en étant étudiante en France, vous êtes en situation régulière, donc vous avez vos papiers, mais sauf que c'est un titre de séjour temporaire avec mention étudiant, donc c'est combien d'années renouvelables pour vous?
C'est un an.
Un an renouvelable, donc vous allez rester dans votre statut étudiant ou vous comptez au fait changer de statut?
Je compte changer de statut, mais avant, finis d'avoir mon master 2. Et si j'ai la possibilité de trouver un travail qui me permettra de changer de statut, je le ferai.
Parce que vous savez si bien que lorsque on perd ces statuts-là d'étudiant, donc pour renouveler les papiers, c'est compliqué. Donc soit on s'inscrit encore pour étudier, ou soit pour une autre formation avant de changer, ou soit en étant étudiant, vous trouvez un contrat à durée indéterminée qui vous permettra de changer statut d'étudiant, de passer au statut de salarié, ou bien mère d'enfant français. Et mère d'enfant français, ça vous tente pas?
Si, mais je n'ai pas totalement les informations. Il faut que j'ai les informations définitives pour pouvoir faire ces démarches-là.
Oui, parce qu'actuellement, ça s'avère quand même assez très compliqué lorsqu'on sait que la préfecture demande beaucoup de preuves et comme il y a le doute concernant la paternité des enfants, donc ça prend énormément de temps. Mais vous-même, en s'asseyant, en vous-même, vous réfléchissez quand même sur des possibilités.
Oui, oui. Mais par contre, ce que j'ai remarqué que toutes les préfectures n'ont pas la même politique.
Non.
D'accord. Parce que moi aussi, il y a un moment donné où j'ai eu à perdre mon titre de séjour, que j'ai effectué, je l'ai renouvelé à Amiens. Et par contre, ceux qui sont en Île-de-France, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore le titre de séjour. Alors qu'eux, ils l'ont demandé avant moi.
Donc, les préfectures diffèrent d'une région à une autre.
D'accord.
Alors, moi, c'est là, moi-même, les informations, les constats que moi, j'ai eu à faire moi-même, c'est devenu quand même la mode du côté étudiante, surtout étrangère, quand elles viennent en France. Soit si ce n'est pas la première année d'arrivée en France, de tomber enceinte ou la deuxième année, c'est devenu quand même à la mode, vous ne pensez pas?
Bon, là, franchement, j'ai pas d'informations dessus, puisque dans mon entourage, je suis entourée de garçons. Donc, je sais pas vraiment si c'est une mode ou c'est un accident, peut-être. Mais bon, là, je sais pas vraiment.
Est-ce que le fait d'être mère d'ici quelques mois ne va pas déranger votre vie estudiantine?
Pas du tout.
Et comment vous allez faire pour jongler les deux?
En fait, c'est une question d'emploi du temps et une question aussi de choix.
Et de trouver aussi quelqu'un pour garder l'enfant, voilà. C'est ça aussi.
Parce que ma priorité aujourd'hui, c'est mon enfant. Donc, je peux pas accoucher, par exemple, aujourd'hui et aller chercher du boulot un mois après. L'argent que tu cherches, c'est pour qui? C'est pour l'enfant, mais d'abord, l'enfant, il est prioritaire. Donc, du coup, j'attends d'abord que, après 2 mois où mon enfant est un peu, disons, un peu la chair de l'homme, je puisse me relancer dans mes recherches et tout. Sinon, ma priorité d'abord, c'est mon enfant.
Et que pensez-vous de l'immigration, de façon générale, des jeunes qui immigrent?
D'abord, l'immigration se voit sous deux volets. Il y a l'immigration que nous connaissons, par voie normale, et l'immigration clandestine. Et concernant l'immigration, moi, je me base toujours sur l'immigration clandestine. Je veux dire aujourd'hui que chacun de nous a son projet d'avenir. On ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre la Méditerranée. S'il sait pourquoi il prend la Méditerranée aujourd'hui, sachant que dans son pays d'origine, d'abord, l'immigration, c'est le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes vers dans un pays dont il n'est pas originaire. Et disons que s'il prend la Méditerranée aujourd'hui, il sait pourquoi il le fait. Il est conscient aujourd'hui de ce qu'il le fait. Parce que disons que dans son pays d'origine, il n'a pas un avenir meilleur. Et il recherche aujourd'hui quelque chose de mieux pour pouvoir couvrir ses arrières, sachant qu'il y a des gens derrière lui. Non, je ne peux pas dire que c'est mauvais, je ne peux pas dire aussi que c'est bon. Chacun tire sa part d'expérience dedans.
Et si les jeunes les Africains, pour la plupart des cas, ils migrent vers l'Europe, la faute incombe aux dirigeants ou bien aux parents ou à la famille?
Disons, moi je mets la faute toujours sur les dirigeants.
Pourquoi?
Parce qu'on va prendre un jeune aujourd'hui qui a... Un jeune qui est parti à l'école qui a un bac, disons un bac plus 5, qui fait des demandes d'emploi, il n'a pas. Et aujourd'hui, tu vas dans les entreprises aujourd'hui en disant, non, dans le jargon, on dit qu'il faut avoir un dollage et un bras long. Si tu ne connais pas quelqu'un aujourd'hui dans une entreprise africaine, tu ne peux pas travailler. Même pour passer les concours et tout, pour entrer à la fonction publique, c'est difficile. Il faut payer, il faut donner de l'argent. Donc, raison pour laquelle les jeunes aujourd'hui s'adonnent à l'immigration clandestine, sachant qu'étant en France ici, on te prend avec tes valeurs et tes compétences. Tu n'as pas besoin d'avoir un parent ou un oncle dans une entreprise pour postuler. Tu déposes ton CV. Si ton CV correspond à la demande de l'entreprise, l'entreprise t'appelle, fait des entretiens et tout. Mais en Afrique, il n'y a pas ça.
En Afrique, il y en a, mais peut-être très peu.
Ben, moi, je dis selon mes expériences. En Afrique, il n'y a pas. Et tu vas dans une entreprise, c'est le fils de tel, le petit-fils de celui-ci, le petit frère du DG. Donc, du coup, ça crée un peu une fermeture pour les jeunes qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à avoir accès à l'emploi.
Mais quand ils viennent ici, ce n'est pas forcément... Ouais. Qu'ils se retrouvent facilement. Ça prend aussi des années,
ça
le temps de pouvoir être régularisé. Il y a certains qui travaillent au noir, c'est bien, vous ne déclarez pas les impôts. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre éternellement ici, surtout en France, si on n'a pas un titre de séjour. On n'a qu'un seul droit qui est la santé, mais il faut vivre. Il faut vivre, il faut avoir un logement à soi, en ton nom, etc. Vous ne pensez pas que c'est aussi des risques des parts et d'autres?
Mais avec le temps, chacun finit par... Il y a d'autres qui finissent par s'en sortir. Il y a d'autres aussi qui baissent les bras, qui retournent à la case départ. Mais tout est une question de chance et de courage. Et si tu sais ce que tu es venu chercher, il y a des gens qui viennent, qui s'adonnent à la drogue, à la prostitution. Mais il y a d'autres aussi, par contre, qui sont conscients de ce qu'ils sont venus chercher. Et ils se battent corps et âme pour gagner leur pain. Et aussi sortir de la tête de l'eau, pardon. Mais tout le monde n'est pas pareil, il y a du bon et du mauvais. Donc moi, j'ai dit toujours que les dirigeants africains doivent revoir ce côté-là, pouvoir donner la possibilité aux jeunes de mettre en valeur leurs compétences aussi, pour éviter que chacun prenne la Méditerranée. Toujours on dit, oh, il y a des mots, mais bon, ça dépend aussi de ce qu'ils vivent dans leur pays d'origine.
Alors, et aux immigrés aussi, les gens de la diaspora qui sont installés et d'autres aussi dont la chance sourit, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pourquoi est-ce qu'ils ne retournent pas apporter aussi leur expérience, pas tout en restant définitivement dans leur pays d'origine, mais de pouvoir aussi essayer d'émerger dans leur pays d'origine?
Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont conscients et il y a ceux qui sont inconscients. Du coup, il y a d'autres, par contre, lorsqu'ils arrivent ici, ils ont pour projet de retourner chez eux après avoir acquis plusieurs compétences ou pour aller déposer une assise dans leur pays d'origine. Mais le grand mais, souvent aussi, la faute aussi revient aux parents. Parce que si la personne qui est ici met du temps à appeler le parent, il prend le temps de faire des économies, pouvoir monter sa petite entreprise en Afrique, les parents vont te dire aujourd'hui, depuis que tu es arrivé en France, en Europe, tu n'appelles plus les gens, tu veux dire que tu as réussi et tout. Tout ça, ça crée un blocage. Il y a d'autres aussi, quand ils veulent partir, ça les décourage, ils n'ont plus envie de partir à cause des proches et tout. Il y a d'autres aussi, quand ils retournent avec le mystère africain, ils ne reviennent plus. Donc du coup, ils sont un peu obligés. Il y a la peur qui est là et l'hésitation et tout.
Et en Île-de-France, vous avez eu à sillonner certains coins où vous avez rencontré des immigrés?
Bon, pas vraiment, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis toujours avec des amis, mais bon, on essaie de se promener un peu dans des coins, surtout dans les gares où j'ai vu des personnes immigrées, où j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, moi, ma situation, elle est favorable. Parce que tu peux voir des gens qui sont dans des sacs à couchage, qui n'ont même pas de quoi manger. Excusez-moi, qui sont crasseux, qui te tendent la main. Et la dernière fois, devant la paroisse Saint-Louis-d'Autun, j'ai vu un Africain ivoirien qui me tendait la main. J'ouvre le champ que j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais est-ce que c'est une malédiction où on est obligé de rester? Puisque donc, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez des associations? Il a dit non. Donc, j'ai dit, mais à part faire la manche, qu'est-ce que vous faites après? Il dit, rien, c'est ce que je fais ici. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Il dit non, que lorsqu'il est venu, il devait être hébergé par son frère. Mais malheureusement, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, son frère n'a plus jamais décroché son téléphone. Raison pour laquelle aujourd'hui, il fait la manche. Il dit d'accord. Donc c'est là que j'ai compris que chacun de nous avait son histoire. Et chacun de nous tient, comment on appelle ça, chacun de nous écrit son histoire du jour, chaque jour qui passe. Donc je me suis dit, ma situation elle est favorable, je rends grâce à Dieu.
Nous allons quand même signaler à nos auditeurs que nous faisons actuellement face à un vent violent. Nous enregistrons cette émission, donc toutes nos excuses si vous entendez des bruits de vent. Musique.
Thank you.
Carole, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Après vos études, vous aimeriez travailler dans quoi ou devenir qui?
Après mes études, d'abord, à moyen terme, c'est de trouver d'abord un stage pour valider mon master 1. Et à long terme, travailler en tant que gestionnaire analytique dans le digital. Et aussi, pourquoi pas, après retourner en Côte d'Ivoire pour pouvoir créer ma propre entreprise. Pour mettre aussi, après avoir servi la France, parce que c'est elle qui m'a accueilli, et aussi retourner en Côte d'Ivoire pour créer mon entreprise et donner la possibilité aux jeunes de mettre en avant leur talent.
Et quand on est étudiant ici en France ou en Europe en général, l'argent n'y suffit pas hein, pour subvenir aux besoins. Il y a des étudiants donc, comme vous qui font de petits boulots et vous avez aussi fait des petits boulots hein, quand vous
oui,
êtes arrivé.
Oui, on est arrivé dans la période du Covid étant à Amiens. Donc tout était pratiquement fermé, on n'a pas eu la possibilité de faire de job étudiant. Mais lorsque je suis venue en Île-de-France, j'ai perdu mon titre de séjour, donc j'ai travaillé un peu, comme vous connaissez le thème. Mais après, j'ai dû arrêter parce que la dame a commencé à me mettre les bâtons dans les roues.
Toujours à cause de l'argent. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot?
Mon dernier mot, je vous dis d'abord merci. Et ce que je veux dire aux étudiants aujourd'hui, avant de venir en France, il faut que le projet d'études soit bien mûri. Parce qu'il ne faudrait pas venir en France et puis se pavaner dans les rues de la France alors que vous êtes venu pour un objectif, atteindre des objectifs et aussi aller au bout de notre formation.
Et un encouragement peut-être ? À ceux qui passent dans des moments très difficiles.
Je leur dis de toujours garder la tête haute. Chacun écrit son histoire. Et il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Tout a une fin. Tout a un début et tout a une fin. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, la personne a fini par sourire. Donc c'est une question de patience. Il faut toujours patienter. Si les autres, les dévancés ont pu surmonter ces épreuves-là, c'est que nous aussi on peut y arriver.
Et à celles qui sont aussi étudiantes, jeunes étudiantes, qui sont enceintes, dont le père ne se manifeste plus.
Je peux leur dire de rester toujours, de rester toujours positif dans la tête et de ne pas stresser parce que étant enceinte et stressée en même temps, ça joue sur le système, le cerveau de l'enfant. De garder toujours la tête haute. Et d'essayer de se rapprocher des associations et tout, et de parler, de ne pas se renfermer. Et lorsqu'on parle, on guérit. Et tant que tu n'expliques pas ce dont tu vis, on ne peut pas t'aider. C'est comme si aller chez le médecin et puis tu ne dis pas ce que ta maladie et puis te prescrire un médicament. Il faut se rapprocher des personnes un peu plus âgées que toi qui vont te donner des conseils et puis te guider. Ça ne sert à rien de rester enfermé et puis essayer toi-même de trouver des solutions. Ça ne t'emmènera nulle part en fait.
C'est dit. Études et immigration en France, deux points, une chance et beaucoup de risques. C'est le thème que nous avons eu à aborder ce soir avec Carole Amoy-Yao, jeune étudiante d'origine ivoirienne. Carole, nous vous souhaitons un beau parcours pour la suite. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, nous allons certainement nous retrouver la fois prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.
Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.